Cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe, le 27 mai 1999 à Saint-Jodard.
M'a demandé de revenir un peu sur le dernier cours pour mieux comprendre comment on peut faire une philosophie politique. À la différence des autres parties de la philosophie, c'est la réalité existante avant le philosophe ou par le philosophe. Et je parle par exemple de l'éthique. L'éthique est fondée sur l'activité humaine de l'homme responsable de ses actes. Et c'est à l'égard de l'amour d'amitié que l'homme a le plus conscience de sa responsabilité, puisqu'il n'est plus responsable seulement de choses particulières, comme se nourrir normalement et non pas s'enivrer. C'est l'éthique, ça. On voit bien, Noé a mis du temps avant de comprendre qu'il ne fallait pas prendre du vin autant qu'on en désirait. Ce vin devait être très bon, les prémices du vin. Mais il s'est enivré. Et pour lui, c'était sûrement pas coupable, parce qu'il n'avait pas, il savait pas. Il aurait peut-être dû être un peu plus attentif. Avant de s'enivrer, il y a un petit moment, j'ai pas l'habitude, mais il y a un petit moment. Il y a un petit moment où on perd un peu pied. On sent qu'on est un peu plus gai. Et les amis devraient à ce moment-là lui dire « Assez, assez !» Alors qu'on fait le contraire. En plus, très mauvais conseil, hein, ordinairement. Quand on voit quelqu'un qui commence à être un peu éméché, on est content de ça. On pousse. Allez, encore un petit verre. Ça va très bien. Puis, après, il y a un moment où je suis responsable d'une personne humaine. Parce que cette personne humaine m'aime. Et je suis responsable de la personne humaine plus elle m'aime. Ce qui existe dans l'amour d'amitié. Tandis qu'autrement, je suis responsable de ceux qui sont autour de moi au niveau de la justice. Ils travaillent pour moi, il est normal que je lui dise, oui, le temps que tu as perdu pour moi, je voudrais bien te faire un petit cadeau, t'aider pour quelque chose d'autre. Ça fait l'équivalent. Sens de la justice. Et la justice est déjà une responsabilité à l'égard de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. On va voir que la politique, le sens de la communauté humaine, c'est ça la politique, c'est le sens de la communauté humaine. Il y a deux fondements dans l'éthique, la justice et l'amitié. Si je réfléchis sur la justice, et si je réfléchis sur l'amitié, je vois que la communauté humaine est capable de développer en moi une activité nouvelle, une activité qui a une dimension qui n'est plus seulement moi, mais qui engage l'autre. Donc, il y a une dimension nouvelle qui peut se réaliser à travers la justice. Puisque la justice fait que je respecte le droit de l'autre. Respecter le droit de l'autre, c'est donc une responsabilité qui implique que l'autre fait partie de mon activité. Il n'est plus totalement l'autre. Je suis engagé avec lui. C'est très curieux, ça. Je lui vends des objets ou je lui donne certains objets. Mais je lui fais comprendre que ces objets m'appartiennent et que je les ai achetés grâce à mon travail, grâce à l'argent que ça coûte cher. Donc, je veux bien lui donner, mais pas entièrement. Le passage de la justice à l'amitié, c'est très curieux. On donne à un ami ce qui nous appartient, et on lui donne, c'est pour lui. Et c'est gratuite. Le dépassement de la justice, c'est l'amitié. Le dépassement de l'aspect économique, c'est l'amitié. C'est un dépassement. Il y a toute une frange entre les deux. Et la justice est sûrement ce qui me conduit normalement à comprendre que dans ma vie, il y a quelque chose de plus grand que de m'occuper que de moi. Je m'occupe de quelqu'un qui m'est confié. Et ceci se développe à l'intérieur de la famille. Vis-à-vis d'un petit enfant, il n'y a pas de justice. Il est incapable de comprendre ce que c'est que son droit. Il a le droit à la nourriture, ça il le comprend assez vite, c'est-à-dire qu'il ne le comprend pas du tout. Il appelle, il réclame, j'ai faim, j'ai soif, et j'ai faim. Si on ne lui donne pas la nourriture, il vous agacera en répétant indéfiniment qu'il a faim. L'éducation commence par là. Et l'éducation, c'est la responsabilité que je prends pour éduquer quelqu'un qui est incapable de se conduire lui-même. Et c'est pour essayer de comprendre comment de l'éthique va naître la politique. Ça a été, je crois, le grand souci d'Aristote face à Platon. Pour Platon, la politique est antérieure à l'éthique. C'est très curieux. Et ça existe, hélas, encore dans le socialisme intégral, qui est très platonicien. Le socialisme intégral fait que l'aspect politique est antérieur à l'activité morale. Et c'est pour ça que le socialiste peut émettre des lois qui ne sont pas du tout conformes à l'éthique. Elles sont peut-être conformes à sa conception sociale, à sa conception politique, au point de vue de l'économie, au point de vue de l'efficacité. Il faut que ça marche. Il faut que l'État grandisse. Il faut que l'État devienne souverain, toujours. Vous voyez, par exemple, pour l'école, à la place de laisser la responsabilité aux parents d'éduquer les enfants, c'est l'État qui s'en empare et prend de plus en plus de place. On fait que, on prévoit qu'un jour on deviendra vieux et on aura peut-être besoin de l'État qui viendra être là pour permettre à ma vieillesse d'avoir un toit, un hôpital, une maison, un hôtel Dieu, une maison qui me permettra de me décharger de ma prudence pour qu'il y ait une prudence qui prenne soin de moi. Platon, dans la République de Platon, la République de Platon est un gros livre qu'il faut avoir lu dans ses études philosophiques. C'est le premier livre politique qui existe. Et pour Platon, la morale est écrite en grand caractère chez ceux qui gouvernent et en petit caractère chez ceux qui sont gouvernés. Ça, c'est Platon. La justice est écrite en grand caractère parmi ceux qui gouvernent. Ça n'existe pas beaucoup souvent, ça. La justice. Et en petit caractère chez le citoyen. Et donc, l'aspect moral est à regarder en premier lieu chez les gouvernants. Et chez les gouvernés, ils sont gouvernés. Et en tant que gouverné, c'est écrit en petites lettres. Vous voyez, c'est un idéalisme extraordinaire, hein, que les hommes d'État, ce sont des législateurs, et que, par le fait même qu'ils sont législateurs, c'est eux qui me déterminent ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais pour l'homme. Et donc, leur prudence politique commande la prudence morale de l'individu. C'est très important de comprendre ça. Platon ne regarde pas comment l'État, la communauté politique, existe. Pour lui, il prend tout de suite un État parfait. C'est pour ça que Platon n'a qu'un seul rêve, c'est devenir le roi. C'est devenir le tyran, celui qui gouverne. Il a fait des essais, du reste. Parce que ses ancêtres avaient gouverné. Il fallait que lui gouverne. Et il fallait qu'il lui gouverne dans la lumière même de son livre, La Politique. Et donc, pour Platon, la morale existe en premier lieu dans le législateur, dans celui qui gouverne. C'est eux qui sont responsables des lois. Et ce sont les lois qui me montrent ce que je dois faire. Justice légale. La justice légale, qui consiste à obéir aux lois, devient la justice, au sens très grand. Alors voyez, chez Platon, et c'est intéressant à comprendre, chez Platon, la politique s'identifie au bonheur de l'homme. La politique doit permettre à celui qui gouverne d'être un contemplatif. Et il est contemplatif s'il est un homme juste au point de vue politique. Et grâce à sa contemplation des idées parfaites, des idées en soi, de la justice en soi, il peut émettre des lois justes, émettre ce qui est le bien de chacun de ses citoyens. C'est très étonnant comme vision. C'est un idéalisme extraordinaire. C'est pour ça que c'est très beau, la politique de Platon. Mais c'est irréel. Alors, si vous avez une tendance à être platonien, ne lisez pas la politique tout de suite. Vous la lirez dans vos vieux jours. Mais c'est bon quand même de lire la politique de Platon. De voir où conduit ce socialisme parfait. C'est un socialisme parfait, Platon. Un prototype socialiste. Et par le fait même, la famille n'existe plus. Elle n'existe que pour donner à l'État des enfants. On a vu ça. Le socialisme d'Hitler a été terrible, a été immoral. Il regardait que le bien de l'État. Alors le point de vue racial est venu là-dedans pour diviser l'humanité en deux. Ceux qui étaient la race bénie et ceux qui étaient de race qu'on devait faire disparaître. Et tous les crimes qu'il a connus, il les a commis au nom de sa contemplation de la justice qu'il voyait comme une justice qui était la sienne en soi. On a fait des parallélismes entre le gouvernement d'Hitler et Platon. Parce qu'il y a un socialisme de droite, il y a un socialisme de gauche. Le socialisme de droite, alors lui, veut exalter l'homme. Le socialisme de gauche veut idéaliser une classe de l'homme. À la place de chercher le bien de l'homme, on cherche le bien de tel homme, de telle race. Et par le fait même, on exclut le reste. C'est très intéressant à ce point de vue-là de comprendre que la politique, l'histoire de la philosophie politique, a commencé par un socialisme absolu. Un socialisme racial. Ça prouve que dans le cœur de l'homme, il y a toujours une tendance à ça, et qu'on doit lutter contre ça, parce que, à ce moment-là, on ne cherche plus le bien de l'homme individuel, le bonheur de l'homme individuel, mais on idéalise le bien de l'homme en voyant un aspect particulier de l'humanité, une race déterminée de l'humanité qui lutte contre l'autre. Face à Platon, Aristote n'accepte pas ce socialisme absolu parce que c'est contraire au bonheur de l'homme. C'est contraire à l'autonomie de la personne humaine. Et là, c'est très important de regarder les deux grands philosophes de la politique, les deux premiers philosophes de la politique, c'est Platon et Aristote. Et pour bien comprendre Aristote, il faut regarder Platon. C'est très important, ça. Mais voyez, là vous voyez que Platon fonde toute sa politique sur la justice. Et donc sur les lois qui viennent préciser quel est le juste, bon, et la corruption de la justice. Et ceci repose sur des idées intuitives que Platon a sur la justice en soi. La justice en soi n'existe pas. Il existe des hommes justes, mais pas la justice en soi. Et alors, c'est en fonction de cette justice en soi, prise vraiment comme un absolu, qu'on contemple que l'application est tyrannique. Tout ce qui n'entre pas dans cette justice en soi doit être rejeté. Et cette justice en soi, elle n'est pas du tout une justice de l'homme, mais elle est un type particulier de justice. Platon, en face, je dis Aristote, en face de ça, va essayer de comprendre s'il y a une philosophie politique. Et Aristote commence sa philosophie éthique par une éthique personnelle. Le mot « personne » n'est pas là, mais c'est une éthique personnelle. La recherche du bien sensible pour l'homme. Et dans cette recherche du bien sensible pour l'homme, Aristote montre qu'au-delà des vertus morales, il y a l'amitié. Parce que l'amitié regarde la personne humaine qui est mon bien, dans la mesure où elle m'aime. Et dans la mesure où elle m'aime en aimant en moi ce qu'il y a de meilleur. Si j'aime dans l'autre uniquement sa capacité de me donner des joies sensibles, sensuelles, cette amitié est mauvaise. Si je regarde dans l'autre uniquement celui qui peut m'aider au point de vue utile, cette amitié n'est pas bonne non plus. C'est vrai, il peut y avoir une amitié de jouissance. Je cherche en l'autre uniquement la joie, la jouissance. Et ça peut aller très loin, là, à ce moment-là. Parce que ça peut, vous voyez, dépasser le point de vue du lien qu'il peut y avoir dans la véritable amitié entre l'homme et la femme, et donc la famille. La jouissance recherchée pour elle-même fait que je détruis le couple. Le couple naturel de l'homme et de la femme. Et je suis alors en présence d'un couple que je fabrique moi-même en vue de la jouissance. En vue de la joie de se retrouver ensemble et de la joie qui peut être une joie peut-être très belle, mais qui reste une joie de chacun, ou une joie qui peut alors s'allier à la jouissance charnelle et devenir uniquement une joie qui n'est plus la vraie joie, qui est une joie sensible, charnelle, de jouissance. Oui, c'est très important de comprendre ça. Que le dépassement de l'individu peut se faire par la jouissance. Et à ce moment-là, le couple, homme et femme, qui est fait pour s'entraider, s'aider, est complètement dépassé. La famille n'existe plus comme prototype de la communauté. C'est uniquement la jouissance qui commande le point de vue politique. Ça a été très loin chez les Grecs, hein, l'épicurisme, qui est une philosophie de l'individu et de la communauté. La communauté est faite pour intensifier la jouissance de l'homme, faire que sur ce temps que je passe sur Terre ne soit pas ennuyeux, et soit un grand jeu où il y a le plus de jouissance possible. C'est ça l'épicurisme, avec un caractère extraordinairement sélect de chercher les joies qui durent le plus longtemps, qui sont le plus raffinées, qui vont le plus loin possible. Et l'autre, dans le couple, on ne recherche plus les exigences naturelles d'un amour humain qui conduit à la génération, à la procréation, mais on cherche que dans l'amitié, on ne recherche dans l'amitié que la joie, que la jouissance. Toujours une jouissance charnelle. Puis il y a possibilité aussi, dans l'amitié, de rechercher uniquement ce qui est utile. J'aime un tel individu parce qu'il sait tout faire. Dès que moi je suis en face de quelque chose que je n'arrive pas à faire, je l'appelle. Allez, au nom de l'amitié, fais-moi ça. J'arrive pas à le faire. C'est très utile, mais au bout d'un certain temps, l'ami dont on se sert comme ça se révolte contre vous. Et c'est là la naissance de toutes les révoltes et de toutes les révolutions. C'est qu'on ne respecte pas l'autre. On l'utilise. On l'utilise en vue d'un bien matériel. Si on l'utilisait encore pour un bien spirituel, je ne peux pas utiliser quelqu'un pour un bien spirituel. Parce que ce bien spirituel me condamnerait d'utiliser un autre pour uniquement le bienfait d'une rencontre. Voyez, Aristote a vu que la justice était premièrement une justice personnelle, morale, et que la morale était premièrement individuelle et personnelle. La morale, grâce à la justice, grâce à la prudence, qui exerce la justice, peut s'étendre au bien de l'autre. Et par le point de vue de la justice, je vois comment l'éthique personnelle va très vite se développer dans une éthique politique par la loi. Mais la loi a des limites. Elle est pour le bien et le développement de l'individu et de la personne. Parce que seul le bien personnel, individuel, peut me donner un vrai bonheur. Tandis que le bien qui m'est donné dans une justice communautaire ne me donne pas le vrai bonheur. Être, avoir la coupe sportive du sport, ne donne pas le vrai bonheur à un novice de Saint-Jean. Ne donne pas le vrai bonheur à un sportif en tant qu'homme. Le bonheur du sportif est limité au sport. Et le sport n'est pas le bien parfait de l'homme. Aristote a compris ça. Alors que Platon croit que la politique, qui regarde la justice en soi, permet le vrai bonheur. C'est d'être roi qui est une fidélité pour l'homme. De l'être d'abord. Et tout est tendu pour être capable d'être roi et pouvoir réussir ça. Aristote a compris que le bonheur est personnel. C'est la contemplation. Et ce bonheur personnel est individuel. Je ne peux pas le communiquer aux autres. Ce que je vous disais tout à l'heure, au premier cours, à propos de la personne du sage. La contemplation ne peut pas se communiquer à un autre. Je peux éduquer quelqu'un aux vertus, mais je ne peux pas l'éduquer à la contemplation. Je peux l'aider, je peux le soutenir, mais je ne peux pas l'éduquer. L'éducation s'arrête à la contemplation. Et donc, la contemplation s'acquiert personnellement. Et c'est le seul vrai bonheur pour l'homme. C'est cette sagesse qu'il peut acquérir. Et qui est un vrai bonheur que l'homme politique doit respecter. Mais l'homme politique, en tant qu'homme politique, ne peut pas acquérir la contemplation. Parce que la contemplation regarde un bien séparé de la communauté, Dieu, Créateur. Et ne regarde pas le bien immanent, fruit d'une certaine contemplation, fruit d'une certaine communauté. Oui, c'est, je crois, cela qui permet de saisir comment la philosophie politique a quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'elle regarde quelque chose que les hommes sont capables de réaliser. Les hommes peuvent réaliser une communauté humaine. Les hommes sont incapables par eux-mêmes, de faire que cette communauté donne à chacun des citoyens le bonheur. Parce que le bonheur de l'homme, c'est le bonheur de son intelligence. Et le bonheur de son intelligence implique une contemplation. Donc je vois là tout de suite les limites de la philosophie politique. Elle ne conduit pas au bonheur. Elle conduit à faire des hommes honnêtes, des hommes justes, des hommes capables à ce moment-là de se perfectionner en tant qu'homme. Et je crois que ça, c'est très très important. Au fond, le discernement entre l'homme politique et l'homme personnel se fait au niveau de la prudence. La vertu de prudence est une vertu morale qui s'acquiert. C'est la plus noble vertu morale. Et c'est pour ça que selon les traditions religieuses, l'homme politique je crois que c'est capital de comprendre cela. C'est la même vertu. La vertu politique ne peut pas exister. La tempérance politique, la vertu de tempérance, la vertu de prudence, ne peut pas exister politiquement si elle n'existe pas personnellement. Et c'est là où on voit combien on a perdu le sens vrai politique. Pour Aristote, il n'y a pas une vertu de prudence politique distincte de la vertu de prudence personnelle. La vertu de prudence personnelle est fondamentale, elle est substantielle, et la vertu de prudence politique est une extension et une modalité. Ça ajoute quelque chose de nouveau, mais elle n'est pas première. C'est la différence entre Platon et Aristote. Et c'est la différence entre une vraie politique et la politique d'aujourd'hui. Je parle pour la France. Pour les États-Unis, je crois que ce serait assez semblable. Mais on ne peut pas parler de la politique des autres pays. Il faut être dans un pays, il faut être l'enfant du pays pour parler de la politique d'un pays. En raison même qu'il faut être un homme ayant acquis la dimension de la personne humaine, aux différents niveaux de la personne humaine, pour pouvoir être un homme politique. Pour Aristote, il faut arriver à l'âge de 45 ans pour vraiment être un homme politique. Il faut l'expérience. L'expérience de l'extension et du dépassement des passions. Et surtout, le dépassement des passions. Les passions cherchent toujours un bien individuel, même pas personnel, et jamais politique. C'est toujours un bien personnel, individuel. La passion. La passion d'être honoré, remarqué, une passion qui consiste à qu'on nous honore. Vous comprenez bien qu'on a cette passion qu'on nous honore fait que toute la politique qu'on cherche sera retournée sur nous, repliée sur nous, notre propre exaltation, qu'enfin on reconnaisse ce qu'on est. C'est pas une politique, ça. C'est une passion. La passion de la gloire. On veut être glorifié. La passion de la domination. On veut dominer. C'est pas politique. L'aspect politique cherche le bien de l'autre. Cherche l'épanouissement de l'autre. L'épanouissement de tous les citoyens. De tous les citoyens de la communauté dont on est responsable. C'est très lourd, hein, cette responsabilité. Et c'est pas du tout la même chose de chercher le bien des autres que de chercher sa gloire. Quand je cherche ma gloire, je ne cherche pas le bien des autres. Non. Je cherche mon bien. Et cela, politiquement, n'est pas bon.